On appelle cela la méthanisation. Il s'agit d'une piste séduisante pour valoriser les déchets organiques afin de produire du biogaz. Présenté comme un fertilisant vert, les résidus de la méthanisation qui produisent du digestat, le fertilisant donc qui sert aux cultures, ne serait pas sans risque pour les sols. Que faut-il donc penser de cette méthanisation réputée vertueuse en raison de ses faibles émissions de gaz à effet de serre? La question est d'autant plus importante que la collecte des déchets organiques ménagers sera obligatoire en France dès 2025 pour alimenter le procédé. On en parle dans un instant donc avec Lionel Rangard, qui est spécialiste d'agroécologie et de la biodiversité des sols à l'INRA de Dijon. Il répond à toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Camille Cronier est avec nous en ce début de semaine. Bonjour Camille.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert dans un instant.
Avec tout ce que vous avez toujours voulu savoir, j'en suis sûre, sur l'huile de palme.
Dans la deuxième demi-heure, un nouveau reportage avec vous. Guy Van Thiel, bonjour.
Bonjour à tous.
On va partir en Alsace, long du GCO, un chantier autoroutier qui n'en finit pas de déchaîner les passions.
Oui, et on va retrouver le maire qui était en première ligne dans la mobilisation.
Autour de ce grand contournement ouest de Strasbourg. Vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Nolwenn, une infirmière qui recycle les déchets de son CHU pour financer des programmes pour les enfants au sein de l'hôpital. Et puis enfin, nos invités découvertes, nous recevrons le photographe Alexis Rosenfeld et le comédien Lambert Wilson pour un livre sur les coraux. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï avec à la technique Arthur Le Breton et Florent Bujon.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Lionel Rangard.
Bonjour.
Bienvenue, on s'intéresse avec vous donc à la méthanisation dans la Terre au carré. Vous êtes d'abord spécialiste d'agroécologie et de biodiversité donc des sols à l'INRA de Dijon et vous participez à un groupe de réflexion qui s'appelle Métarev, qui associe donc les industriels des chambres d'agriculture, des associations de riverains autour de cette question et surtout autour des conséquences de la méthanisation. Alors expliquez-nous d'abord en quoi consiste de ce procédé dont on dit qu'il est à la fois vertueux pour l'environnement mais qu'il a également des effets néfastes.
Alors tout d'abord, c'est un processus naturel, hein, la méthanisation. Donc c'est une digestion par des bactéries de la matière organique sans oxygène. Donc on appelle ça en anaérobie. Mmh. Et le produit final est le gaz méthane. Donc il y a un intérêt de production d'un gaz en termes d'énergie. Mais il y a aussi des déchets au final qui sont les digestats de méthaniseurs.
Ça fait longtemps qu'on utilise ce procédé ou pas?
Alors c'est un procédé qui est assez ancien, mais en fait son développement en Europe a commencé par certains pays comme l'Allemagne, plus historiquement qu'en France. En France, ça fait vraiment une quinzaine d'années qu'on voit un petit peu se développer des méthaniseurs dans les campagnes comme dans les systèmes périurbains. Et ces dernières années, vraiment, ça augmente significativement.
D'autant qu'il y a des soutiens du gouvernement, hein, très clairement.
Tout ce qui est énergie et en soutien du gouvernement. Et puis on a des opérateurs comme GRDF aussi qui sont intéressés par ce développement pour remplacer petit à petit le gaz ayant une origine pétrochimique d'un gaz plutôt ayant une origine naturelle.
Ouais. Quels sont les déchets organiques justement qu'on utilise dans ce procédé de méthanisation?
Alors, il y a une grande diversité d'entrées. On donne à manger aux méthaniseurs avec de la matière organique et c'est un petit peu de la localisation. Ça dépend de la localisation des méthaniseurs. Quand on est en système périurbain, urbain, on peut avoir des bouts de stations d'épuration, même des déchets ménagers. Et puis quand on va dans des systèmes plus ruraux, agricoles, on a des déchets végétaux. Et puis on peut avoir aussi des effluents d'élevage et jusqu'à aussi des déchets animaux, de carcasses, etc. Et cette grande diversité de produits en entrée du digesteur va faire aussi une grande diversité, non pas de gaz, mais de digestats, donc de déchets, et avec différentes qualités de ces digestats.
Donc il faut bien imaginer qu'en fait ça donne naissance à deux choses. Donc le biogaz d'un côté, et puis le digestat de l'autre, qui est quoi? Alors le liquide ou le solide?
Alors, c'est un mélange
qui sert de fertilisant en fait?
Voilà, c'est un mélange de liquide et solide. C'est vrai qu'il est assez riche en azote. Il est aussi assez riche en matière organique. Tout n'a pas été digéré dans le méthaniseur, même si ce qui est digéré dans le méthaniseur, c'est quand même la matière organique un peu facile à dégrader. Donc celle qui, entre guillemets, pourrait nourrir le sol à la base. Et en fait, donc soit on peut utiliser ce digestat de façon brute, c'est-à-dire qu'on le prend tel qu'il sort et on l'épand sur les sols, qui est pas obligatoirement la meilleure idée, quand on discute avec les agronomes, ou même avec les agriculteurs. Ou alors on peut le séparer en deux phases, une phase liquide, très riche en azote, tout à fait rapidement assimilable, un peu comme un ammonitrate, avec un peu de matière organique, et puis une phase solide, très riche en matière organique, mais qui est un peu trop stabilisée en termes de matière organique, donc on peut le recomposter avec un mélange de déchets végétaux plus frais.
Alors, on va revenir sur le Digesta parce que c'est lui qui est au cœur des problèmes, justement. Encore un mot sur la production du biogaz. Est-ce que, justement, ce qu'on produit avec ces déchets organiques ressemble exactement à ce qu'on extrait des gisements de gaz naturel? Ça donne exactement le même résultat.
C'est du méthane, c'est du CH4, ouais. Hein, c'est une molécule très simple, donc c'est du CH4, sauf qu'il est produit par des bactéries en phase anaérobie. Mm-hmm. Donc c'est le même gaz.
Donc on va s'en servir pour faire quoi? De l'électricité?
Alors on peut rajouter ça pour faire de la chaleur, on peut faire de l'électricité, ce qui intéresse aussi EDF, donc production d'énergie sous toutes ses formes, en fait.
Et alors, écologiquement parlant, c'est vraiment intéressant, le biogaz produit de cette façon-là, avec la méthanisation.
Moi, je vais me prononcer sur le côté déchets, hein, c'est-à-dire qu'il y a la production, et comme tout processus biologique ou chimique, il y a des déchets, il y a des sous-produits, et ces sous-produits, à un moment, il faut les utiliser, parce que leur reconversion pourrait peut-être coûter trop cher. Et c'est vrai que l'idée, c'est comme il y a de l'azote, comme il y a de la matière organique, c'est de les mettre sur des sols agricoles. Donc, il y a plusieurs... Alors, le problème, c'est qu'on a créé ce groupe de réflexion Métarev, qui associe... toutes les parties prenantes, plus les chercheurs, parce qu'il y a aussi des chercheurs, bien sûr, et notamment tous les experts sur la biologie des sols, mais aussi sur le stockage du carbone. On s'est rendu compte qu'on avait très peu de références en France, comme à l'échelle internationale, sur l'impact de ces digestats sur la biologie, sur la qualité biologique du sol.
Ouais.
Or, en agriculture, on est quand même, depuis un certain temps, dans ce qu'on appelle une transition agroécologique, où on doit protéger la biologie du sol pour mieux l'utiliser, notamment à des fins de réduction d'intrants de synthèse, pesticides, engrais. Et donc, ces digestats qui arrivent dans le paysage, sur lesquels on a peu de références, peu de recul sur leur impact, il est de notre devoir, nous, instituts publics, d'étudier leur impact et de voir si vraiment ils sont vertueux d'un point de vue agroécologique.
Ouais, quand vous dites qu'on a peu de recul, ça veut dire quoi? Qu'il y a eu peu d'analyses de fait pour l'instant par des laboratoires indépendants?
Tout à fait, et à l'échelle même internationale.
Et pourquoi alors? Parce que ça coûte très cher, encore une fois, un mystère.
Alors on trouve des données. Le problème, c'est quand on a peu de données, souvent les données sont contradictoires, parce que ça dépend fortement du type de digestat, du type de sol aussi, du contexte dans lequel et comment on va les pendre, parce qu'il y a tout un système de stockage, d'épandage, qu'il faut maîtriser, et on le maîtrise plus ou moins bien, avec des influences ou des impacts qui peuvent engendrer des choses assez différentes.
Alors justement, quels sont les problèmes liés vraiment à ce digestat? On lit par exemple que dans le Lot, on peut parler d'une catastrophe écologique liée à l'épandage de digestat. Il y a vraiment un problème dans ce département?
Alors, nous, on a été interpellés par une association dans le Lot, justement, très tôt, ce qui a même un peu stimulé la création de notre groupe de réflexion pour créer des projets à court terme et générer de la référence scientifique et objective. Dans le Lot, on a l'air d'avoir vraiment un peu un problème environnemental par rapport à une qualité de digestat. On est sur des méthaniseurs qui prennent des déchets de canard gras, donc avec des digestats qui sont très compliqués en sortie, très riches en azote.
D'origine animale.
D'origine animale, plutôt, mais vraiment animale. C'est même plus des effluents d'élevage, c'est carrément l'animal et ses déchets. Et très riche en azote et avec un fort dégagement d'ammoniac parce qu'on maîtrise mal la qualité du digestat et son épandage et même son stockage. Et en plus, le problème du Lot, c'est que c'est un système karstique. Donc c'est un système où les sols sont très peu profonds, 10-15 cm de sol, fracturés avec du calcaire. Et donc ce que l'on met au-dessus du sol va assez directement dans les eaux souterraines, qui sont des eaux de captage pour la consommation d'eau potable. Et donc on a aussi une capacité de contamination très importante. Donc c'est d'autant plus grave que l'on peut avoir une contamination des eaux importante. Et puis il y a quelques démonstrations par des associations que ce type de digestat dans ce type de sol engendre une forte mortalité des vers de terre ou des abeilles. Bon, je me prononce pas sur la robustesse de ces démonstrations parce que ce sont des prises de vue sur le terrain.
Elles nécessitent vraiment des études scientifiques.
Voilà. Et dans les projets qu'on va monter avec le groupe Métarev, qu'on va déposer très rapidement parce qu'il y a presque une urgence à travailler dessus à l'ADEME et au ministère de l'Agriculture sur des appels d'offres d'essais de fin d'année, on va aller échantillonner dans le Lot, entre autres, pour aller étudier l'impact de ces digestats sur la qualité de ces sols.
Donc la pollution des sols, le problème de l'odeur aussi que ça génère, qui est vraiment très très incommodante. Voilà.
Comme on a beaucoup d'azote sous forme d'ammoniac, si on gère mal l'épandage, il peut y avoir ce dégagement ammoniacal au moment de l'épandage, parce qu'il fait trop chaud, parce que c'est trop humide, parce qu'on n'est pas équipé techniquement. Et c'est vrai que les riverains, des fois, se plaignent aussi de ce dégagement d'ammoniac, qui est un gaz irritant, et s'il est trop concentré, plus qu'irritant.
En fait. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer alors? Parce que c'est très clivant, finalement, ce sujet de la méthanisation. À la fois, on loue donc ses vertus écologiques parce que c'est très peu émetteur de gaz à effet de serre. On est d'accord avec ça?
On est d'accord avec ça. Et puis, c'est une production assez vertueuse d'un gaz donc, qui est nécessaire pour notre énergie en termes de consommation et de société humaine.
Ouais. Et puis, de l'autre, on a quand même cette probable, en tout cas possible, pollution des sols.
Voilà. Alors, le but, c'est pas de stigmatiser la méthanisation, mais c'est de poser certains principes de précaution avant une utilisation, parce qu'il y a un déploiement qui est quand même assez important, et d'avoir des principes de précaution et surtout d'y répondre avec des résultats objectifs qui viennent de la recherche publique et indépendants. On est là pour rationaliser un peu le discours et aussi l'utilisation des digestats. Et suite à ces programmes, peut-être qu'on identifiera des digestats qu'il ne faut pas épandre, ou enfin, en tout cas, sur certains types de sols, et puis des digestats qu'on peut épandre parce qu'ils ont une valeur valeur fertilisante et même potentiellement une valeur de stockage de carbone dans les sols.
La production de biogaz aujourd'hui, par le biais de la méthanisation, ça représente quoi à l'échelle de la France?
Alors là, je ferai interroger GRDF, j'ai pas à réviser ces chiffres-là, mais c'est pas encore énorme. Par contre, indépendamment de la production de biogaz, hein, qui va aller de façon croissante, il y a aussi un intérêt économique pour les agriculteurs. Et ça, il faut pas le négliger, parce qu'on est dans une crise assez économique pour l'agriculture. Mmh. Et les agriculteurs aussi, c'est une source de revenus non négligeable. Mais il faut que cette source reste, encore une fois, dans cette dynamique agroécologique, où on doit intégrer les pratiques agricoles, et donc l'épandage de digesta, dans cette protection de la biologie du sol et des écosystèmes pour avoir une agriculture durable.
Ouais. Qu'est-ce qu'on a observé sur les vers de terre? Vous y faisiez allusion, Lionel Rangin.
Alors, indépendamment du Lot, où vraiment on voit des effets très agressifs et qui sont pas issus de la recherche, on a un rapport de l'ANSES qui nous dit, qui est assez récent, hein, qui nous dit qu'il y a un problème sur la reproduction des vers de terre. Donc, il n'y a pas un effet immédiat de mortalité, mais on a un problème dans les générations à venir. Bon, c'est presque identique, hein, en termes d'impact. Et puis, on a des études internationales que je qualifierais de peut-être moins indépendantes, qui montrent que des fois ça stimule les vers de terre. Donc là encore une fois, il y a tellement de diversité de digesta et de sol aussi, parce que les sols sont des réceptacles très différents.
Et de résultats scientifiques, alors visiblement.
Et d'équipes, qu'en fait, il faut augmenter vraiment les références sur ces points-là, et on a des spécialistes des vers de terre dans notre groupe, hein, notamment, pour vraiment objectiver le discours.
Ouais. Alors cette question-là, et on en parlera tout à l'heure avec les auditeurs de l'émission, mais elle est importante parce que justement, en 2025, le gouvernement, en tout cas, on va nous demander, nous particuliers, de collecter nos déchets organiques ménagers. Ce sera obligatoire en France pour alimenter ce procédé.
Oui, donc de toute façon, ça va prendre une place croissante dans le paysage. Je pense que la méthanisation est un processus qui peut être vertueux et qui est de toute façon intéressant pour la production d'énergie, dont on ne peut pas se passer. Donc il faut aller dans ce sens-là, hein, mais il faut le faire bien. Et on est encore, non pas sur le produit fini, on est sur le déchet, le reliquat de la méthanisation. Qu'est-ce qu'on peut en faire et dans quelles conditions?
On en parle donc avec les auditeurs dans un instant. Les questions au standard de la Terre au carré et sur les réseaux sociaux. À tout de suite, Lionel Rangard.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Passauvert avec de l'huile de palme au menu aujourd'hui.
Oui, on n'a pas arrêté d'en entendre parler en fin de semaine avec des petits malins à l'Assemblée nationale qui ont cru faire passer discrètement un amendement pour prolonger jusqu'à 2026 un avantage fiscal lié à l'huile de palme, c'est-à-dire la laisser dans la liste des biocarburants, avantage bénéficiant à Total qui vient d'ouvrir une raffinerie spéciale dans les Bouches-du-Rhône. Mais ils ont été grillés, ces petits malins. Du coup, les députés ont revoté vendredi soir et ont cette fois rejeté l'amendement et donc l'avantage fiscal. Autant vous dire que Total fait la tête. Alors, avec tout ça, donc, l'huile de palme était partout dans les infos et je me suis demandé si, en fait, on savait vraiment ce que c'était finalement. Eh bien, devinez quoi?
Franchement, je ne sais pas. Ça vient d'un arbre, l'huile de palme, si je ne me trompe pas.
Ça vient des palmiers.
Enfin... des cocotiers. Je sais à quoi ça ressemble, mais je ne sais pas c'est quoi le nom exactement de la plante.
L'huile de palme... Alors, je fais attention d'acheter les produits où il n'y a pas d'huile de palme, mais alors... ce que c'est exactement, c'est vrai, je sais pas.
Et voilà, typique. D'ailleurs, beaucoup ne savent pas donc d'où elle vient. Mais alors, où on en trouve là? Il y a une réponse qui fuse.
Dans le Nutella.
J'ai le droit de dire la marque. Le Nutella.
Dans la Nutella, oui.
Et oui, lui, il était italien, il le prononçait bien. Il y en a aussi dans les gâteaux industriels, hein, les cosmétiques, gel douche, mousse à raser. Et même dans le lait pour bébé, ainsi que dans les biocarburants, en Europe particulièrement. À défaut donc de bien connaître l'huile de palme, que leur inspire-t-elle?
C'est une cochonnerie. Je sais que ça fait du mal à la planète, mais je ne sais pas pourquoi.
C'est pas bon pour la santé?
C'est pas bon pour l'organisme, non? C'est pas ça, l'huile de palme?
C'est pas top niveau écolo, ni niveau santé.
Je sais le désastre écologique que ça produit, mais ce que c'est réellement, je sais pas.
C'est un truc dégueulasse parce que ça déforeste complètement la planète.
Alors, sur la santé, sachez que l'huile de palme n'est pas mauvaise en soi, hein, pas plus en tout cas qu'une autre huile végétale, c'est une idée fausse, ce sont plutôt les aliments ultra transformés contenant de l'huile de palme qui sont mauvais pour la santé. En revanche, comme disait le monsieur, sur l'aspect écologie et déforestation, là, on est dans le vrai, et c'est Clément Sénéchal de Greenpeace France qui nous explique.
On va défricher des forêts primaires, des forêts souvent millénaires, qui sont de grands stocks de carbone et des réservoirs de biodiversité inestimables, pour pouvoir planter des palmiers à huile. Donc ce sont des terres qui sont ravagées par cette culture, d'autant plus que les défrichages ont souvent lieu en utilisant des incendies. Et donc on va rejeter de grandes quantités de carbone dans l'atmosphère pour étendre ces plantations de palmiers à huile.
Résultat donc, réchauffement de la planète et moins d'oxygène, puisque moins de forêts.
Ma mère me dit tout le temps, l'arbre c'est comme le poumon de la terre. Si on enlève tous les arbres, la terre ne peut plus respirer et les humains non plus.
Voilà, quand on vous dit que la vérité sort de la bouche des enfants, Mathieu. Alors en fait, pour faire face à la demande mondiale croissante en huile de palme, la plus rentable du marché, hein, elle est pas chère et elle est efficace à produire, on plante de plus en plus de palmiers à huile, donc on rase de plus en plus de forêts et de terrains pour leur laisser la place, en détruisant aussi au passage la biodiversité et les habitats, hein, des orang-outans par exemple. Tout cela dans ce qu'on appelle la zone intertropicale, Indonésie, Malaisie en Asie, bassin du Congo en Afrique et Amazonie sur le continent américain. Une solution donc.
Pour limiter la consommation d'huile de palme et faire en sorte qu'on arrête d'étendre les plantations de palmiers à huile pour préserver de manière urgente les dernières forêts tropicales qui restent et qui nous permettent de respirer en tant qu'humanité.
Et Greenpeace, Camille, demande de limiter la consommation, donc pas d'arrêter tout simplement la production d'huile de palme.
Et non, puisque certains pays déjà en ont besoin de cette huile de palme, et puis surtout, ça ne ferait en fait que déplacer le problème, et il n'y a pas que Greenpeace qui le dit. Écoutez Pierre-Marie Aubert, chercheur à l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales.
C'est pas l'huile de palme en tant que telle qui est un problème, c'est que en fait, on va passer de 10-15 kilos par personne d'huile végétale par an à 25, 30, voire 35. C'est ça l'enjeu.
Voilà, il faudrait ne pas augmenter les surfaces de plantation de palmiers à huile, malgré la demande qui pourrait donc être multipliée par 3 d'ici 2030. C'est dans l'alimentation que l'huile de palme est la plus utilisée dans le monde. Et pour Pierre-Marie Aubert, il y a un autre enjeu encore plus important que l'huile de palme en ce qui concerne la déforestation.
L'essentiel de la déforestation qui est importée en Union européenne, c'est de la déforestation issue du soja. Pour produire du poulet, du porc, du bœuf, du lait, en très grande quantité, à très bas coût. Pas du tout l'huile de palme, du simple au triple. Donc c'est 8% pour l'huile de palme et 35% pour le soja de notre déforestation importée. C'est énorme.
Le soja brésilien, voilà un autre produit que vous connaissez certainement de loin, mais dont vous n'avez pas idée à quel point il est présent lui aussi partout autour de vous.
Et Camille Cronier, merci pour cet éclairage sur l'huile de palme. Lionel Rangard, la qualité des sols entre une région tropicale, là où on cultive de l'huile de palme, et nos pays, c'est très très différent, les sols ne se ressemblent pas.
Alors il y a déjà deux concepts très différents, c'est que dans les sols tempérés, les ressources de minérales pour les végétaux sont dans le sol, alors que dans les forêts tropicales, ils sont dans les végétaux. Et en fait, quand vous déforestez, et ben vous enlevez la plupart des ressources. Et c'est pour ça qu'on déforeste de plus en plus, parce que les sols sont pauvres en fait. On croit que c'est riche parce que c'est foisonnant, mais l'essentiel des ressources sont dans les végétaux et dans les arbres. Donc quand vous enlevez les arbres, vous tombez sur des sols pauvres et donc vous êtes obligé d'avancer. Et surtout avec un mode de production qui est pas du tout agroécologique, pardon, pour ces palmiers, mais plutôt intensif. Quoi.
Allez, on parle ensemble méthanisation donc dans un instant. C'est le thème de notre Terre au carré. Dis-moi que t'y penses, c'était Malik Djoudi sur France Inter. Demain, notre planète, ce sera la première conférence du nouveau cycle de France Inter autour de l'environnement et de l'écologie. Ce sera ce jeudi, là, à 20h, en direct de la Maison de la Radio, également dans l'une des 150 salles de cinéma près de chez vous. Comment changer pour amorcer la transition écologique? Ce sera le thème que nous aborderons avec mes invités Hubert Reeves, Cynthia Fleury, Valérie Cabanès et Aurélien Barreau. Et vous pouvez réserver les dernières places disponibles pour les salles de cinéma en allant dès maintenant sur franceinter.fr. On se dit donc à jeudi soir.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Lionel Rangard, agro-écologue et spécialiste de la biodiversité des sols à l'INRA de Dijon. Beaucoup de questions, ça vous étonne pas, hein, sur la méthanisation. Sujet ultra clivant, on va s'en apercevoir tout de suite et on accueille pour commencer Jean-Luc. Bonjour.
Voilà, bonjour Mathieu, bonjour à votre intervenant. Merci de prendre la question. Donc, par rapport à ce qui a été dit, on dit que les méthaniseurs utilisent des déchets verts des bouts des villes. Donc ça, c'est très très bien, c'est positif. Par contre, moi, en tant qu'agriculteur, je peux témoigner qu'en réalité, ceux qui ont mis en place des méthaniseurs mettent des cultures, donc de l'ensilage d'herbe, de l'ensilage de maïs, des cultures intermédiaires. Quand il y a de la sécheresse, ces cultures intermédiaires ne poussent pas, donc ils vont mettre de l'ensilage de blé. Et donc, ça vient en concurrence directe de l'alimentation humaine. Et moi qui suis éleveur bovin, demain, je ne pense que je ne pourrai plus acheter de la paille. Donc, ça menace notre activité. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, quand l'intervenant dit les productions de gaz à effet de serre sont faibles. Alors, malheureusement, on déstocke le carbone du sol. Donc, dès qu'on déstocke du carbone du sol, on brûle la matière organique, hein, on produit effectivement du méthane. Mais la combustion du méthane, ça produit du gaz carbonique, du CO2. Donc, au lieu de stocker du carbone dans les végétaux, on le déstocke du sol pour brûler la matière organique du sol. Et là, on a un impact gaz à effet de serre très négatif. Troisièmement, donc c'est l'incidence sur la fertilité du sol. On brûle la matière organique du sol. Et la fertilité du sol, c'est lié directement au taux de matière organique. Donc, on est en train d'appauvrir de nos sols, hein, comme on a fait dans le bassin parisien en faisant culture sur culture. Donc là, le taux de matière organique est descendu à des taux inférieurs à 1,6, alors que nous, dans notre bocage normand, on a des sols très pauvres, mais qu'on a réussi à maintenir riches grâce au fumier. Et alors, là, je vois des voisins qui font des méthaniseurs, ils n'auront plus de fumier pour enrichir leur sol. Voilà, alors, merci.
Merci Jean-Luc, c'était très complet en tout cas comme question.
Et on a beaucoup hein. de messages hein, sur justement ce dont il parlait au départ, Jean-Luc, sur les cultures qui sont finalement faites exprès pour les méthaniseurs. Roselyne, par exemple, elle nous parle du maïs, elle dit c'est une aberration et ça provoque en plus une inflation des prix du maïs localement.
Lionel Rangard. Alors,
c'est vrai qu'on en a pas parlé parce qu'on parlait de la sortie qui était le digesta et de son impact, hein, ce qui est un peu l'objectif de nos groupes de réflexion. Mais c'est vrai que il faut nourrir les méthaniseurs et que pour être efficace, un méthaniseur, il doit toujours être plein. Et donc, il faut le nourrir avec des matières végétales, des matières animales. Et donc, on voit une orientation des pratiques et des modes de production vers
Des cultures spécifiquement dédiées.
Des cultures spécifiquement. Alors, il y a un pourcentage maximum hein, qu'on peut dédier aux méthaniseurs. Hein, donc, on est plafonné. D'un point de vue écologique, il faut quand même dire que ça va quand même inciter les agriculteurs à toujours couvrir leur sol. Et d'un point de vue biologie du sol, ce sont des sols couverts qui sont des sols riches et diversifiés. Après, il ne faut pas changer l'objectif de l'agriculture qui est de nourrir les populations humaines et non pas nourrir les méthaniseurs. Il ne faut pas qu'on retombe dans une agriculture intensive pour nourrir les méthaniseurs parce qu'ils seront intéressants d'un point de vue production d'énergie.
Alors, complément de réponse pour Jean-Luc sur le bilan CO2 de la méthanisation.
Alors, CO2 de la méthanisation en termes de processus, il n'est pas mauvais. Après, il y a des simulations sur est-ce qu'on va stocker de la matière organique et du carbone dans les sols avec les digestats en comparaison d'autres amendements organiques comme les fumiers, les composts, etc. Alors, j'ai vu des simulations parce qu'on a encore peu de recul hein, réel, mais on a des simulations. Les simulations disent que la réponse est un peu moins. C'est-à-dire qu'on aurait un peu moins de stockage de carbone si on utilise des digestats. Alors, encore une fois, il y a une grande diversité de digestats et de typicité de matière organique. Donc, on peut avoir une grande incertitude sur ces simulations-là. Mais c'est un peu moins efficace que les amendements classiques que l'on a aujourd'hui en agriculture.
Question de Bruno par mail. Les fuites de biométhane sont mal maîtrisées, les installations peu contrôlées. Est-ce que c'est vrai?
Alors, je rappelle que je suis un spécialiste du sol et pas des méthaniseurs. En fait, il y a des méthaniseurs par rapport aux témoignages que l'on a des agriculteurs qui travaillent avec nous, il y a des méthaniseurs qui sont bien montés, qui sont bien conçus et qui sont assez étanches. Et puis il y a des méthaniseurs qui sont un peu moins bien conçus, un peu plus bâclés, avec une démarche qualité un peu moindre. Ça, c'est vrai pour tout ce que l'on fait. Hein. Et donc, bah, certains auront des fuites et puis d'autres seront un peu plus vertueux.
Allez, on accueille Julien au standard de l'émission. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue à vous. On écoute votre question, Julien.
Alors, moi, j'ai une question, tout simplement. Qu'est-ce que vous comptez faire contre les dérives de la méthanisation qui devient industrielle aujourd'hui ? Effectivement, le procédé de méthanisation est à la base un procédé qui est là pour faire de l'énergie, qui est là pour apporter un revenu supplémentaire aux agriculteurs, sauf qu'on est obligé de se rendre compte aujourd'hui que malheureusement, Engie et d'autres industriels de l'énergie sont en train de transformer les campagnes, sont en train d'installer des méthaniseurs à côté des habitations, sont en train de faire venir des intrants de plus de 50 km, les intrants étant composés de déchets industriels, de déchets d'abattoir. Comment pouvez-vous faire accepter aux populations rurales que la transition énergétique se fasse sur leur dos et non pas avec eux ?
Lionel Rangard, question directe de Julien. Merci à vous de l'avoir posée.
Oui, alors encore une fois, je porte pas la méthanisation. Hein. Moi,
Non, mais il faut pas botter en touche. Là, il faut lui répondre.
Hein. Non, mais je vais lui répondre. Moi, j'anime un groupe de réflexion qui est là pour rationaliser, objectiver l'utilisation des digestats dans une agriculture qui se veut durable. Donc voilà les objectifs.
C'est exactement ce que nous dit Julien.
Donc en fait, pour nous, c'est aujourd'hui pas de référence. On n'a pas de connaissance sur l'impact de ces digestats autre que d'un point de vue agronomique, sur notamment la biodiversité, tout ce qui va faire la durabilité de l'agriculture de demain et ce que demandent les consommateurs aussi et les riverains. Et donc nous, à très court terme, c'est de produire des références sur l'impact de ces digestats sur cette biodiversité. Ouais. Si on découvre qu'ils sont négatifs pour la biodiversité, on le communiquera. On est indépendant. On est.
Mais c'est ce que laisse déjà entendre notre auditeur finalement. C'est le manque de durabilité. Au fond du
procédé. Écoutez-moi, le manque de durabilité, je le vois d'un point de vue biodiversité. Si vraiment on altère la biodiversité, et il y a sûrement des types de digestats qui le font, parce qu'on a déjà quelques petites démonstrations, eh ben, on communiquera autour de ça. Après, quel impact sera sur les politiques publiques?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une recherche qui est menée en ce moment.
Exactement.
Sur
la méthanisation elle-même. Et sur son côté, voilà, le processus de méthanisation, on a des équipes de pointe en France, à l'IRSTEA d'Antony et à l'INRA de Narbonne, qui travaillent encore, parce qu'on connaît encore mal le consortium bactérien qui fait cette méthanisation dans le méthaniseur. Et on peut encore l'optimiser, et en production de méthane, et aussi en qualité de digestat à produire. Et on pourra sûrement mieux les piloter dans les années à venir par rapport à cette accumulation de connaissances aussi.
Alors, témoignage de Paul sur un sujet que vous avez rapidement abordé tout à l'heure. J'habite à 1 km à vol d'oiseau d'une unité de méthanisation. Eh bien, ça pue, pas tous les jours, mais au moins 40 à 50% du temps. C'est violent, et en plus, il y a des quantités de rats attirés par les stocks d'aliments importés, avec des guillemets, dit-il, pour compléter les apports agricoles.
Oui, ben on est typiquement là dans les notions de digestat. Quand ça sent mauvais, ça peut être des dégagements ammoniacaux ou de soufre au moment de la méthanisation, ou quand on entrepose ces fameux digestats qui peuvent avoir ce relargage d'azote ammoniacal qui peut poser problème. Voilà, donc on a aussi dans le Lot ou dans d'autres départements des associations de riverains qui sont contre l'implantation des méthaniseurs.
Patrick Diez, est-ce que c'est vraiment rentable d'utiliser de l'eau des terres agricoles nécessitant de l'énergie pour produire de l'énergie ?
C'est un peu le monde de l'agriculture qui rencontre le monde de l'énergie, avec des objectifs qui à la base sont quand même différents. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas les associer. Il y a sûrement quelque chose d'intelligent à faire.
Mais c'est là qu'il faut vraiment étudier le bilan réel.
Faut étudier le bilan réel. Il faut pas orienter l'agriculture pour nourrir les méthaniseurs. Et il faut que chacun garde ses objectifs. Je vais prendre un terme écologique. Il faut que ça soit en symbiose. C'est-à-dire que ça soit du gagnant-gagnant pour l'énergie et pour l'agriculture.
Très vite, Christelle nous dit, on a mentionné que la collecte des déchets organiques va devenir obligatoire en 2025. Le consommateur sera-t-il obligé de donner ses déchets pour notre part compost et permaculture? Nous transformons déjà nos déchets organiques.
Alors, c'est méthanisation versus compostage. Hein. On voit qu'il y a plein de compostage qui se développe à petite comme à grande échelle. Et ça, c'est une matière organique que l'on sait intéressante pour l'agriculture, y compris pour la biologie des sols. Ça serait dommage quand même de limiter le compostage au détriment de la méthanisation.
Ouais. Donc work in progress hein, quand même.
Work in progress, et d'ici, normalement, tout est fait pour que d'ici 18 mois, on ait déjà des éléments de réponse sur l'impact de ces digestats, qui viendraient vraiment objectiver tout ça.
Mais je suis sûr qu'on aura largement l'occasion d'en parler bien avant. Merci beaucoup Lionel Rangard d'être venu aujourd'hui dans la Terre au Carré. Juste après les infos, le reportage de la semaine proposé par Guy Van Til, qui s'est rendu en Alsace pour enquêter sur le GCO, le grand contournement ouest de Strasbourg.
La Terre au carré.
Au menu de cette deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec Nolwenn, une infirmière qui recycle les déchets de son CHU pour financer des programmes pour les enfants au sein de l'hôpital. Et puis enfin, nos invités découvertes, nous recevrons le photographe Alexis Rosenfeld et le comédien Lambert Wilson pour un livre sur les récifs coralliens. Mais pour le moment, c'est l'heure de découvrir le premier épisode du reportage de la semaine avec vous, Guy Van Til. Reportage en Alsace, près de Strasbourg, où voilà des décennies qu'un projet autoroutier de 24 km mobilise au nom de l'environnement.
Oui, c'est le grand contournement S. Une histoire qui ressemble, qui ressemble beaucoup au projet finalement abandonné de Notre-Dame-des-Landes ou d'Europa City. Contre la destruction de leurs forêts, le bétonnage des terres agricoles, des habitants sont transformés en farouches défenseurs de la nature. Sauf qu'ici, le dénouement n'a pas été le même. Et après 7 avis défavorables, des années de recours, toujours pas jugés sur le fond, et même une ZAD et un mois de grève de la faim, le chantier à 550 millions d'euros concédé à Vinci avance à vitesse accélérée depuis un peu plus d'un an. Alors aujourd'hui, entre Kolbsheim et Vandenheim, on se pose beaucoup de questions sur les grands projets, la démocratie et l'environnement.
Il y a un an, les opposants au GCO étaient expulsés manu militari de leur ZAD, leur zone à défendre installée en plein cœur de la forêt de Kolbsheim.
Mairie de Kolbsheim. Kolbsheim dit non au GCO.
Alors en fait, il s'oppose au GCO, c'est le grand contournement ouest de Strasbourg.
Un projet d'autoroute vieux de 50 ans mais qui ne cesse pourtant de faire parler de lui. Les travaux ont commencé dans une ambiance très tendue, notamment à Kolbsheim, où une ZAD s'était installée.
Oui, je suis une ZADiste, oui.
Et là, on rentre dans la mairie.
C'est une ZAD qui avait le soutien du maire de la ville et d'une partie de la population.
Oui. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour. Donc, Danny Karcher, maire de la commune de Kolbsheim depuis 2001 et conseiller de l'Eurométropole de Strasbourg depuis 2017.
J'ai vu un panneau en venant où Eurométropole, ça avait été tagué, c'était devenu Euronécropole. C'est un scandale ce que vos administrés font.
Vu ce côté-là de leur métropole, le message n'est pas si bête que ça, quoi. Il y a bien quelque chose qu'on a tué, quoi. La biodiversité, les terres agricoles, des paysages, du patrimoine. Et ben voilà, on nous parle de construction d'autoroutes.
On la voit d'ailleurs qui sort de terre, pas loin d'ici.
Quand je regarde, il me semble quand même voir plus de destruction pour l'instant que de construction.
On va voir un peu justement, on sort un peu.
Le GCO, c'est comme la ligne Maginot, une inutile gabégie, une scandaleuse connerie.
Je suis.
Bah, c'est la rue où il y a le château au bout, il y a l'église, il y a le presbytère, il y a la mairie.
Mais ce que je remarquais, c'est que outre le fait que c'est un vrai village alsacien, c'est-à-dire toutes les maisons sont impeccables, il n'y a pas une feuille par terre. Par contre, sur presque toutes les maisons, je vois des affiches tous unis contre le GCO.
Oui, et pourtant ça ne suffit pas. Ouais. Oui, mais je crois que c'était une caractéristique. D'ailleurs, on nous faisait passer un petit peu pour le village gaulois qui résiste encore et toujours, et on se demande pourquoi. Mmh. Sauf, comme vous l'aurez remarqué, on n'avait pas de potion magique. Et donc, on n'a pas pu chasser l'envahisseur. C'est au contraire lui qui nous a refoulés.
C'est vrai qu'au moment de l'évacuation définitive de la ZAD, il y avait 500 gendarmes.
C'est vrai qu'il y en avait des centaines. Hein. Il y avait l'hélicoptère, il y avait... Enfin, scène de guerre, quoi. Et que d'un côté, vous avez quelques personnes pacifiques qui essayent de défendre ce que vous ne pouvez plus voir maintenant. Bon, on peut s'avancer encore un tout petit peu. Il y avait des terrasses avec des vignes et des vergers. Tout ça, c'était que des arbres partout.
Ah oui, parce que là heureusement que vous me le dites, parce que moi, je ne me rends pas compte. Bah moi, je pensais que c'était un champ de betteraves ou de...
Non. Enfin, vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas vu ce qui était là. Avant. Là où vous avez un gros tas de machins, en fait, il y avait un trou, il y avait une forêt.
C'est une espèce de grande muraille de terre.
Oui.
Là.
Ben, c'était une forêt, avec des arbres, avec une clairière. La ZAD du Moulin, c'était là où il y a le camion qui va passer, là.
Et c'est là où vous êtes retrouvé, ce petit village tranquille d'Alsace, projeté dans un foyer de contestation.
Là, devant nous.
10 septembre 2018.
C'est là qu'on a été chassés.
Les ZADistes auront tenu un peu plus d'un an. Mais le 10 septembre 2018, au petit matin, les autorités ont mis les moyens pour évacuer la ZAD.
La charge est annoncée, mais elle surprend les habitants. Bousculade, sans ménagement et bombes lacrymogènes ont raison de la volonté des opposants au GCO.
Il
voyez
là. Là, c'est vrai, on voit le balai, là, des camions qui passent dans un sens et dans l'autre.
Vous voyez, ils sont quasiment à la queue leu-leu, là.
Bonjour, messieurs, dames. Là, vous faites votre balade et vous êtes venu voir visiter le chantier, c'est ça?
Oui.
On le voit de la maison, alors.
Et alors, vous étiez pour ou contre le...
J'ai été dans les travaux publics toute ma vie, alors ça ne me change pas grand-beaucoup, hein. Comprenez?
Bon. Donc c'était pour, alors?
Oui.
Mais c'est vrai qu'ils font quand même des belles constructions.
Oui, c'est un beau chantier.
Et je trouve que c'est quand même bien. Ils ont mis les... Dans le béton, il y a des dessins. Donc c'est quand même du joli béton. Ils font quand même artiste, quand même, un peu, voilà. Tant qu'à faire, il faut au moins quelque chose de joli.
Donc c'est pour ça que vous êtes content de belle autoroute, voilà.
Déjà, ça dénature, on va dire, la nature, autant que l'ouvrage soit beau. Voilà.
Non, je vais demander au monsieur pour à quoi ça va servir, d'après lui.
Je ne suis jamais contre le progrès. Le progrès, c'est qu'il n'y aura plus de camions qui iront sur Strasbourg. Si je dois aller sur Strasbourg pendant trois quarts d'heure et vous payez 2 euros pour le faire en un quart d'heure, eh ben je donne mes 2 euros et je le fais en un quart d'heure. Et je suis gagnant.
Est-ce que je peux juste vous faire une remarque? Est-ce que vous avez compris que la route ne va pas à Strasbourg?
Je sais bien.
Si
vous pouvez sortir à Wolfisheim.
Et quand je sors à Wolfisheim, je vais dans quoi?
Dans les bouchons. Mais voilà.
Oui, ce qui est extraordinaire avec ce projet, c'est que la route, elle va contourner les bouchons, c'est tout. Vous allez pouvoir payer pour choisir le bouchon par lequel vous voulez rentrer dans Strasbourg.
Mais c'est ça le progrès.
Mais oui, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde, ça n'existera jamais.
Je suis conscient.
Ça n'existera jamais.
Ça, j'ai compris.
Le progrès autoroutier ne serait donc pas aussi simple que l'a dit Vinci. En tout cas, on continue demain notre galerie de portraits avec une mamie zadiste et une pasteur radicalisée.
Autour du joli béton du grand contournement ouest de Strasbourg. Merci Guy Vanctil. À demain.
France Inter. La Terre au carré. Vos solutions pour la planète.
Et nous partons à Rennes retrouver Nolwenn. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Nolwenn, vous êtes infirmière anesthésiste en chirurgie pédiatrique au CHU de Rennes et vous avez fondé l'association Les Petits Doudous qui œuvre pour améliorer les séjours à l'hôpital des enfants grâce au recyclage des déchets hospitaliers. Racontez-nous votre histoire qui est assez étonnante et qui démarre en 2010, hein, je crois.
Oui, c'est juste un petit peu une réaction à des difficultés personnelles, à supporter les pleurs des enfants qui allaient au bloc opératoire et de me dire qu'est-ce que moi je peux faire pour essayer de changer ce système avant de partir et de jeter l'éponge. Et devant le simple fait de même pas pouvoir donner un doudou à un enfant qui passait au bloc, je me suis dit mais il faut faire quelque chose et j'ai créé l'association avec deux collègues, Les Petits Doudous, pour offrir des doudous aux enfants. Et on s'est évidemment lancé dans cette quête financière pour faire vivre notre association et en regardant autour de nous et aussi en essayant d'agir éco-responsable, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient peut-être être valorisées pour financer nos doudous.
Eh bien, la question c'était celle du recyclage des déchets hospitaliers et là vous avez trouvé une jolie manne financière quand même, hein ?
Oui, tout à fait. En fait, on était assis sur une mine de cuivre. voilà, beaucoup de matériel. Hein. On est dans le monde de l'usage unique. On a aussi beaucoup de choses que l'on jette dans les hôpitaux. Et on a regardé ce qu'on avait dans ces déchets d'activité de soins à risque infectieux qui coûtent énormément d'argent aux établissements de santé à retraiter. Et j'ai récupéré un fil de bistouri électrique qui n'était pas du tout infecté, qui avait servi peu de temps. Et c'est aussi une des problématiques que l'on contourne en agissant avec ces déchets, c'est de le prendre et de regarder ce qu'il y avait dedans et de sensibiliser le personnel à ne pas le jeter, c'est-à-dire le chirurgien, les aides-soignants, tout le personnel d'un bloc opératoire et de se dire, en valorisant ce fil de bistouri électrique, en récupérant le cuivre qu'il contient, eh bien, peut-être qu'on arriverait à financer nos doudous. Et c'est vrai que le sens de cette action simple pour tout le monde, comme trier à la maison, de mieux trier à l'hôpital, eh bien, ça nous a permis de financer notre association.
Qu'est-ce qu'il y a comme autre déchet, Nolwenn, à l'hôpital, au-delà de ce fil de bistouri électrique dont vous nous parlez, que vous pouvez évidemment revaloriser?
Oui, on est devenu des ferrailleurs, hein, en plus de faire de l'anesthésie, de la chirurgie et notre travail du quotidien, c'est de l'inox dans des lames d'intubation qui sont aussi à usage unique. Et en fait, tous les métaux, de l'aluminium, et on est venu à recycler tous ces métaux qui n'étaient pas dans les filières classiques. Il y a déjà beaucoup de choses de recycler dans des établissements, hein, le papier, le carton, heureusement. Mais ça, ce sont des déchets d'activités de soins qui sont forcément triés par le personnel qui l'utilise. Et si ce personnel n'est pas sensibilisé, c'est très difficile de les récupérer et de les sortir du circuit classique de déchets d'activités de soins. Et c'est exactement ça qu'on a réussi à faire en simplement en donnant du sens et en sensibilisant les gens à mieux le faire, avec de l'ergonomie aussi dans les blocs opératoires pour que ça soit facile pour le personnel. Et de la sécurité pour le sortir aussi de manière décontaminée, sans risque infectieux, pour pouvoir agir sur les déchets hospitaliers, ce qui permet, nous, de nous financer, mais aussi de faire gagner de l'argent à notre établissement de santé.
Et alors ça, maintenant, vous avez tellement mobilisé autour de vous qu'il y a plus d'une soixantaine d'associations, les petits doudous, hein, c'est ça, et pas seulement en France métropolitaine, hein.
Voilà, en fait, il y a 67 associations aujourd'hui avec tous les océans, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, la Guadeloupe. Et on espère encore que les soignants vont se mobiliser davantage, puisque ce sont des formidables agents éco-responsables, tous, et qu'on recycle dans toutes ces associations les déchets hospitaliers.
Alors, pour terminer, Nolwenn, parce que l'argent maintenant sert effectivement à pouvoir acheter ces doudous, mais pas seulement, puisque vous avez mis en place une application pour les enfants qui les aide à déstresser, c'est ça, avant de passer au bloc opératoire?
Oui, c'est un jeu que nous avons créé, hein, avec cette dynamique finalement. Le recyclage a mis le pied à l'étrier pour que les soignants se libèrent, se disent « nous aussi on peut agir ». Et on avait imaginé un jeu pour que les enfants soient acteurs du parcours. Mmh. Et ce jeu n'existait pas sur une tablette, à notre plus grande surprise. Et nous, soignants, on s'est lancé dans cette aventure de créer une application numérique qui s'appelle « Le héros, c'est toi ». Avec notre réseau, le mécénat, on a réussi à faire ce jeu. Et ce jeu aujourd'hui est une prescription médicale, puisque avec des études scientifiques bien entendu, hein, on est dans des établissements aussi, on évalue nos pratiques. Et ce jeu aujourd'hui permet d'accompagner les enfants et de les rendre acteurs du parcours, ce qui a complètement transformé notre profession. Et c'est grâce à ce réseau doudou-là, avec le jeu, les cadeaux, c'est 120 000 enfants impactés par an dans notre réseau doudou tous les ans. Et des économies pour les établissements. Donc c'est vraiment un système gagnant-gagnant où on voit que faire tourner la terre au carré, ça peut vraiment valoriser des bonnes initiatives comme ça, finalement, à simple, où chaque personne est vraiment éco-responsable et responsable de son travail aussi pour améliorer la prise en charge des enfants.
Ben bravo en tout cas, Nolwenn, parce que c'est vous hein, qui êtes à l'origine justement de la toute première association qui a fait beaucoup vraiment de petits et puis certainement d'autres à l'avenir. Ça s'appelle lespetitsdoudous.org hein, pour le site et pour tout savoir de votre action, et on peut la mener évidemment dans tous les autres hôpitaux du pays. Merci beaucoup, Nolwenn, de nous en avoir parlé. Bravo à vous encore et à très bientôt. Allez, dans un instant, un photographe, Alexis Rosenfeld, et un comédien, Lambert Wilson, sont nos invités pour nous parler de récifs coralliens. might be time. C'était Tame Impala.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Et on parle d'un beau livre qui sort aux éditions Mangareva Productions. Et ce sont les écosystèmes coralliens qui sont au cœur de ce beau livre. Nous recevons le comédien Lambert Wilson et le photographe Alexis Rosenfeld pour nous en parler. Bonjour,
bonjour
à tous les deux.
Bonjour Mathieu.
Ne manque plus que le chercheur Serge Plan, directeur scientifique de Tara Pacific, qui est le troisième protagoniste de cette publication. Ouvrage donc qui est un regard croisé sur les écosystèmes majeurs de la planète que sont donc les récifs coralliens. Lambert Wilson, votre participation à cet ouvrage, c'est finalement dans la droite ligne de ce que vous défendez. Alors j'ai découvert ça depuis très longtemps. En fait, autour de l'environnement.
Oui, ça fait à peu près une vingtaine d'années, oui. Ma participation dans le livre, elle est vraiment discrète. Le vrai travail du livre, c'est le travail d'Alexis, qui est un travail photographique. Ensuite, il y a une analyse scientifique qui est faite par Serge Plan, que j'avais rencontré par hasard lors d'une expédition avec Greenpeace au large de la Guyane. Serge et Alexis se connaissent depuis longtemps, et Alexis, qui est là aujourd'hui avec nous, nous a proposé ce regard croisé. Il y a le regard scientifique de Serge, il y a les photos forcément d'Alexis, et puis moi, c'est un regard de passant finalement. Peut-être c'est un regard poétique, c'est un regard pas littéraire, parce que j'aurais jamais cette prétention-là, mais c'est voilà des sensations sur à partir des photos que nous a proposé Alexis. Mais c'est vrai que pour moi c'était passionnant de faire des commentaires sur ça, parce que il se trouve aussi que grâce à Serge Plan, j'avais pu faire de la plongée. Bon, d'abord j'ai découvert le monde de la plongée en faisant le rôle de Cousteau à l'écran. J'ai
2016.
Appris là, ouais. Et ensuite Serge m'a montré ce que c'était vraiment que un écosystème encore à peu près en bon état en Polynésie.
En Polynésie, oui, évidemment.
Mais malgré le blanchissement qui est de plus en plus présent, le blanchissement des coraux. Et donc, j'avais été vraiment émerveillé il y a un an en plongeant. Et j'avais des... Voilà, je pouvais commenter certaines des photographies parce que j'avais vu certains des éléments qui sont présents dans les écosystèmes.
Mmh. Alors justement, Alexis Rosenfeld, vous êtes donc photographe et plongeur professionnel. Alors c'est un livre qui montre d'abord la beauté quand même des coraux, mais pas seulement, le blanchissement, il est là aussi présent. Et c'est assez stupéfiant de le voir en double page, par exemple. Parce que c'est la réalité aujourd'hui de ces grands fonds.
C'est une réalité très récente. Ce sont des photos qui ont été prises en avril à Moréa, dans le Pacifique. Il y a eu un épisode majeur de blanchissement. Je suis allé en Polynésie pour ce phénomène-là et le photographier, le restituer aujourd'hui dans cet ouvrage.
Oui. Les photos, juste une question, pardon. Ces récifs coralliens à Moréa, je les avais vus en octobre l'année dernière et la photographie qui est montrée dans le livre en avril. C'est un paysage qui a complètement changé. Enfin, entre ce que j'ai vu en octobre de l'année dernière et maintenant, en tout cas 2019, c'est un paysage qui est mort.
Donc c'est un
processus sur l'océan.
Ouais, donc c'est vrai que c'est ultra rapide comme processus finalement.
C'est un processus qui se déclenche très vite à partir du moment où il y a un stress du récif corallien ou des coraux en particulier. Le corail devient tout blanc. Il éjecte son algue avec laquelle il est en symbiose. Mm-hmm. En revanche, c'est pas forcément la mort annoncée du corail, ce blanchissement. Hein. C'est un peu comme si vous avez de la fièvre, vous êtes pas mort pour autant.
Dites le blanc, c'est pas forcément toujours la couleur de la
mort. Non, ce n'est pas la mort. C'est juste un signe de détresse et de grand stress du corail. Et ensuite, il redevient tout à fait normal si
Mais pas toujours
si le stress s'en va.
Mais quand on regarde votre livre, qui est effectivement très beau, Mathieu le disait, on n'a pas cette impression de catastrophisme, de tristesse justement, de mort. Il y a des photos qui montrent des coraux qui sont morts, qui sont en mauvais état. On voit également, par exemple, un sac plastique qui flotte au fond de l'eau. Mais on a l'impression d'une beauté, même dans les commentaires que vous faites. Par exemple, Lambert Wilson, il n'y a pas d'écrit à dire attention, faites attention.
En fait, je pense qu'il faut toujours provoquer un choc initial, d'abord aussi pour les jeunes générations. Ça commence toujours par... l'acte d'ouvrir les yeux sur la beauté du monde pour avoir envie de le protéger. Et je pense que c'est ce qu'a voulu faire aussi Alexis, c'est montrer l'incroyable beauté et diversité de ces écosystèmes-là, et puis d'alerter sur sa fragilité. Alors, parce que c'est toujours le problème de l'alarmisme en ce moment. On a envie de dire, ouvrons les yeux sur les chiffres épouvantables, sur l'état terrible des océans et puis de l'environnement en général. Mais il faut aussi, pour une génération qui découvre le monde extérieur, il faut créer un émerveillement, je crois. Parce que c'est l'émerveillement qui va faire qu'on aura envie
C'est plus mobilisateur pour vous que de montrer la face sombre des écosystèmes.
Je peux apprendre très rapidement. On a envie de dire des choses très sombres parce qu'en fait, vous le savez très bien dans votre émission, je veux dire, les faits sont très très accablants en ce moment. Mais le pessimisme finalement ne débouche que sur du pessimisme et sur une non-action. Donc il faut provoquer de l'action, il faut provoquer de l'enthousiasme, il faut provoquer un désir de protection et
Alexis Rosenfeld.
Lambert, je suis entièrement d'accord avec toi. On peut mobiliser par le beau. Et en fait, on peut parler de catastrophisme, de stress, d'angoisse, de problématiques mondiales. Et c'est vrai que le récif corallien, c'est forcément le premier témoin aujourd'hui. C'est lui qui blanchit quand ça se réchauffe. Mmh. C'est lui qui blanchit quand ça ne va pas. Et c'est avec, la beauté de ce monde de l'océan qu'on peut ramener plus de monde, qu'on peut être auprès des enfants, qu'on peut être auprès d'une très grande mobilisation, plus que de montrer des choses absolument dégueulasses, sales tout le temps pour dire ça va pas. On peut en parler avec le beau.
Serge Plan, à qui j'ai parlé, donc notre chercheur au CNRS, le grand spécialiste des récifs coralliens, me disait qu'en fait le blanchissement des coraux, ce sont comme sur un corps humain, il y a des zones de comme disait Alexis, de fièvre ou de stress, des boutons, des marques. C'est passager, mais ce sont quand même des signes qui sont dus au réchauffement climatique. S'il y a du blanchissement de corail, c'est parce que la température de l'eau monte et que l'acidification de l'eau est trop importante. Et donc en fait, il me disait quand même, la température du globe, moyenne sur le globe, augmente, mais ces phénomènes-là, comme les ouragans, ce sont des phénomènes ponctuels, extrêmes, qui se calment, qui se rétablissent, mais quoi qu'il arrive, nous avançons vers une augmentation lente, mais progressive, mais sûre, de la température moyenne ambiante.
Alexis Rosenfeld, il y a tout dans ce livre. Hein. Il y a l'exubérance, la beauté, la couleur des coraux, toutes ces formes incroyables, ces animaux qu'on croise. Et puis, effectivement, de l'autre côté, il y a aussi cette évocation de la mort. D'ailleurs, c'est une des toutes dernières photos que vous avez prises.
Oui.
Et qui raconte finalement la fin aussi. Hein.
Bien sûr. Il y a une modification complète de la structure et des récifs coralliens. Et la mort, et se rendre compte que cet écosystème... Il faut quand même rappeler aux auditeurs que une espèce sur trois des océans, de tous les océans du monde, provient des récifs coralliens. Mmh. C'est un écosystème majeur pour l'humanité. Et c'est vrai que voilà, que de voir tout doucement ces récifs s'amoindrir, disparaître, c'est une problématique majeure pour l'humanité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de protection pour les côtes, les médicaments qui viennent de ces récifs coralliens, on n'y aura plus accès, énormément de protéines qui viennent pour l'alimentation de populations proviennent des récifs coralliens. Et on est en train de s'handicaper et de se suicider.
C'est vous qui êtes derrière l'appareil photo, vous
toujours.
Avez plus envie de déclencher quand c'est beau ou quand c'est en train de mourir ou déjà mort?
J'ai toujours envie de déclencher quand je sens qu'il faut déclencher, c'est-à-dire que ce que moi je racontais dans ce livre, et ce que je fais, c'est-à-dire que Lambert a donné une dimension engagée et poétique, Serge Plane une dimension très structurée et scientifique, et moi j'ai voulu raconter l'histoire de la photographie, et chaque photographie a une histoire, et c'est le temps qui s'arrête, c'est un petit moment de ma vie et de la vie des gens qui m'entourent et de l'écosystème qui m'entoure, et c'est ce moment-là que j'ai voulu raconter.
Et pour vous, Lambert Wilson, dans ces textes, c'est tout ce que ça vous inspire également, il y a cette remonta qui vous inspire le vol, il y a ce poisson qui est quasiment devant un paravent chinois, c'est absolument magnifique, puis vous dites, la rencontre entre une baleine et son baleineau, rien dans toute ma vie ne restera aussi fortement ancré dans ma mémoire. Et on voit la photo.
Oui, alors j'ai eu la chance, dans les propositions faites par Alexis, d'avoir trouvé des photos qui me parlaient complètement, soit les requins en Polynésie, le baleineau avec sa mère, parce que c'était très concret dans ma vie. Quand on ferme les yeux et qu'on se dit, voilà, faisons la somme très rapide des très grands moments qu'on a vécu, je mettrai cette rencontre... Mais sortant du grand bleu, vraiment, voir apparaître une baleine, un baleineau et un mâle derrière, au niveau de, je sais pas, avoir été tout seul dans les chutes d'Iguassu en train de chanter pendant au Brésil, entre le Brésil et l'Argentine, pendant une heure et demie tout seul à l'aube. Des choses comme ça, on pense très rapidement à ces moments fondamentaux où on est en contact avec la beauté pure de la nature, de l'univers. Et ça nous remet à notre place de petite parcelle, comme ça, qui doit rester modeste et surtout essayer de faire le moins de dégâts possible, simplement ouvrir les yeux. Donc j'ai eu la chance que Alexis me propose des choses qui me parlent directement. En revanche, il y avait des photographies qui étaient très difficiles à commenter, parce qu'il y a des gros plans sur les récifs coralliens, enfin sur le corail lui-même, ou alors sur les anomalies.
Mais ça vous a emmené aux origines de la vie quand même, donc finalement vous avez trouvé des chemins.
Mais parfois je suis resté très longtemps devant les photographies pour sortir des mots.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Ça s'appelle Récifs coralliens, cœur de l'océan. Ces photographies d'Alexis Rosenfeld avec vous, Lambert Wilson et Serge Plane. Et donc cet ouvrage paraît aux éditions Manga Reva Productions et c'est une idée de cadeau pour la fin de l'année, histoire de rêver. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.